Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Mardi 30 septembre 2014, il est 18h, le journal du studio Tamani, c'est une présentation de Sira Bachili. À la une de cette édition, l'enquête sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon va pouvoir commencer. L'association des proches des victimes a été reçue hier au palais de justice de Paris par les trois juges d'instruction chargés de l'affaire. Les négociations d'Alger suspendues continuent malgré tout. L'équipe de la médiation poursuit son travail. Le document qu'elle prépare servira de trame à la prochaine étape sans doute décisive des pourparlers. Le développement de la filière de la gomme arabique au Mali pourrait contribuer à lutter contre les candidats à l'immigration. Les promoteurs d'un projet d'industrialisation de cette production croient en ses chances de réussite. Le sport au service de la reconstruction de Kidal. Hier, les responsables de différentes disciplines se sont retrouvés au stade du 26 mars de la ville. Objectif, relancer le sport dans la région de Kidal. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour la première fois depuis l'ouverture de l'information judiciaire sur l'assassinat des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les parties civiles ont été reçues hier au palais de justice de Paris par les trois juges d'instruction chargés de l'affaire. Nous allons donc écouter Pierre-Yves Schneider.
Ce qui reste comme zone d'ombre est beaucoup plus important que ce qui aujourd'hui apporte de la clarté. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne cessons de dire que des zones d'ombre persistent. Elles concernent aussi bien l'éventuelle présence d'un hélicoptère au moment de l'enlèvement, ça concerne aussi le fait que des gens ont été témoins plusieurs minutes avant la découverte des corps. Ce sont des questions que nous posons, ce sont des questions qui restent à poser aux enquêteurs, aux autorités civiles, militaires, maliennes, françaises, parce que ce sont des éléments qui pourraient permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. D'autre part, en ce qui concerne les coupables, les tueurs, pour que justice puisse se faire, nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments nouveaux qui nous soient communiqués. La justice va commencer un vrai travail, un travail d'interrogatoire, un travail peut-être de coopération avec la justice malienne. Nous l'espérons.
Voilà Pierre-Yves Schneider qui est membre de l'association des amis de Ghislaine Dupont. Beaucoup de questions pour lui restent à ce jour sans réponse. Un cap a été franchi, l'espoir est permis, c'est ce qu'estime l'association malienne des droits de l'homme qui réagit favorablement aux premiers éléments de l'enquête et compte sur la coopération judiciaire entre le Mali et la France pour faire la lumière sur les circonstances de la disparition des journalistes de RFI. Le président de l'AMDH, Maître Mokhtar Mariko, au micro de Issa Fakaba Sissoko.
Je pense que avec le rebondissement et avec les nouveaux éléments qui sont apparus dans le dossier, les juges pourront vraiment travailler. Mais cela ne peut se faire tant qu'on ne laisse pas de côté ce qu'on appelle secret de défense, secret d'État, raison d'État. Il va falloir qu'on lève tout ça pour que le juge puisse enfin accéder au dossier, accéder à la documentation et accéder au rapport des services secrets, soit du Mali ou bien de la France, afin que le dossier puisse vraiment évoluer. Nous pensons que vraiment un cap a été franchi et que la justice malienne, je pense qu'elle est prête à travailler dans le cadre de cette affaire parce qu'il y a déjà une coopération d'intérêt judiciaire entre le Mali et la France. Donc, sur le terrain, je crois que le Mali aussi a sa sécurité d'État qui a travaillé sur le dossier. Il y a des juges maliens autour de la commune 3 qui ont été dépêchés sur le lieu, qui ont aussi enquêté. Et je pense que tous ces éléments peuvent aider le juge français à aller au bout de ces investigations.
Vous pouvez donc réagir à ces informations sur la page Facebook. Pour que le compte Twitter de Studio Tamani.
Tamani.
Les négociations d'Alger qui sont suspendues pour quelques jours continuent malgré tout. Depuis le départ des délégations, l'équipe de la médiation poursuit son travail. Le document qu'elle est en train de préparer servira de trame à la prochaine étape décisive des pourparlers. Le point avec notre envoyé spécial à Alger, Moussa Camara.
La partie n'est pas de tout repos pour l'équipe de médiation internationale. Quelques jours seulement après le retour des délégations d'Alger, revoilà les médiateurs sur la brèche. Sous la houlette de l'Algérie, l'équipe de médiation va plancher sur les propositions faites par le gouvernement malien et les groupes armés pendant les négociations directes. Elle va ainsi procéder à un examen sans complaisance des propositions quant à leur conformité ou pas à la feuille de route qui demeure la boussole qui oriente les négociations. La tâche s'annonce d'autant plus délicate pour la médiation raison qu'elle se trouve devant deux positions différentes. D'un côté, les mouvements armés membres de la coordination qui défendent bec et ongle l'idée d'un État fédéral. De l'autre, le gouvernement malien qui reste sur sa position de régionalisation ou de décentralisation poussée. En attendant, la proposition d'un État fédéral réclamée par les MNLA et ses alliés continue à provoquer son lot de protestations dans la capitale malienne ainsi que dans les régions du pays, notamment celles du nord comme Tombouctou et Gao. À l'appel de la société civile, les manifestants rejettent toute idée de partition ou de division du Mali.
La filière de production de la gomme arabique doit être améliorée. Un projet vient d'être lancé pour son développement industrialisé. Selon l'un des responsables de ce projet, la promotion de la gomme arabique a un impact social important. Il estime que cette activité pourrait limiter le nombre de candidats à l'immigration. Mohamed Sidibé, joint au téléphone par Imirana Kilumaiga.
La gomme pousse dans les zones déshéritées et que c'est de ces zones-là que sont issues la quasi-totalité de nos émigrés en Europe, généralement en Occident. Et nous pensons que les bras valides, les jeunes, les populations riveraines de ces zones gommifères gagnent leur pain sur place. Et donc avec l'activité de la gomme arabique, nous pouvons penser que raisonnablement que ceci, en tout cas le flux de migration migratoire pourrait freiner ou en tout cas être ralenti. Et nous avons déjà effectué une première mission dans toutes les zones gommifères accessibles. Jusqu'à Mopti. Le projet porte sur 13 cercles gommifères. La cartographie qu'on nous a remise par les services techniques compétents couvre à peu près 13 cercles gommifères où il n'y a aucun doute, le gommier réussi, il y a déjà des peuplements sauvages existants qu'il va falloir entretenir. Et puis nous nous proposons justement notre ambition, c'est de créer 10 000 hectares de gommiers plantés.
Le réseau des femmes africaines ministres parlementaires du Mali veut réduire l'analphabétisme des femmes. Selon l'organisation, près de 2/3 des Maliennes n'ont pas fréquenté l'école. Ses responsables ont organisé une conférence débat il y a quelques jours sur l'alphabétisation, ses enjeux et perspectives. Madame Touré Abissi, présidente de la coalition Éducation, Paix et Culture de la CAFO, a participé à cette rencontre. Elle demande aux autorités de mieux appuyer l'alphabétisation des communautés.
Aujourd'hui, on doit quand même s'appuyer sur l'alphabétisation des communautés, surtout les femmes et les jeunes. Avec le ministère, on a mis un programme sur place qu'on appelle programme vigoureux d'alphabétisation, CVC, c'est-à-dire compétence de vie courante. Ça, c'est très important. C'est à travers ce programme que la CAFO a eu des centres d'alphabétisation. Nous sommes là avec nos animatrices à former les femmes sur place. Ce sont des formations de proximité qu'on est en train de faire. Dans chaque quartier, on a un centre ou deux ou trois. Donc moi, je dis que vraiment l'alphabétisation, ça commence à porter fruit.
Comment prendre en compte le contexte particulier de Kidal pour permettre le développement du sport dans la région? C'est la question qu'ont examiné hier les responsables des disciplines sportives au stade du 26 mars. Cette rencontre devrait permettre de trouver des solutions pour relancer le sport dans la région de Kidal. Oumar Amadada Touré, directeur régional de la jeunesse et des sports de Kidal, au micro de Mohamed Tita Jean-Pierre.
L'objectif de cette rencontre, c'est de réunir tous les acteurs évoluant dans le domaine sportif en vue de recueillir leurs avis sur les problèmes qui minent le sport. Dans la perspective de trouver des solutions idoines au développement du sport dans la région de Kidal, il y a le problème d'organisation des structures, le problème des infrastructures, du sponsoring, de formation des encadreurs. Au sortir de cet atelier, nous aurons touché du doigt tous les maux qui minent la bonne marche du sport, puis faire décoller le sport dans la région. Kidal réellement a fait des performances. Kidal a été toujours le berceau d'élites sportives. Il faut une participation active de tous les acteurs et aussi un apport conséquent des budgets que l'État va mettre à notre disposition. Bon, la spécificité de Kidal, c'est ce problème d'insécurité qui est là.
Dans nos régions, plus de 3000 personnes ont marché ce matin à Ségou et Douanza pour l'unité du Mali. Les manifestants dénoncent les revendications liées au fédéralisme, à l'autonomie et à l'indépendance. Ces marches sont organisées par les sociétés civiles et la jeunesse de ces différentes localités. Le ministre du Développement rural, Bokari Treta, s'est rendu hier à Niafinke. Il a visité le centre de conditionnement de poissons, une mini-laiterie et la mare rizicole de Gumbo. Ces unités n'étaient plus fonctionnelles depuis la crise de 2012. Accompagné des directeurs nationaux de son département, il s'est informé sur l'état de la campagne agricole 2014-2015. Les autorités scolaires de Bourem tiennent une rencontre préparatoire à la rentrée 2014-2015. Elles ont fait le bilan annuel de l'année dernière et examiné les perspectives pour l'année prochaine. Le CAP de Bourem a atteint 70% de réussite aux examens nationaux 2013-2014. Plus de 74 000 enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite dans la région de Kai. C'est ce qui ressort du bilan des résultats du troisième passage des Journées nationales de vaccination. Cette activité a concerné les enfants âgés de 0 à 5 ans et selon les responsables socio-sanitaires, les objectifs sont atteints à plus de 100%. Les agents de l'administration sur le terrain à Ségou ont reçu ce matin 9 motos Sanili. Le gouverneur a remis ce matin leurs clés au préfet de Niono. Les bénéficiaires travaillent dans les zones de Djabali, Sokolo et Nampala. Cette remise d'une valeur de 5 millions de francs CFA entre dans le cadre du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas. Tout à l'heure, c'est l'émission Le Grand Dialogue après le magazine. Famoussa Sidibé, bonsoir.
Bonsoir, Sira.
Alors, on fait un gros plan aujourd'hui sur la sécurité alimentaire.
Oui, Sira, on fait un nouveau bilan sur la malnutrition au Mali. Nous aurons comme invité Faké Kameira du programme alimentaire mondial, PAM, spécialiste en nutrition. Samba Dolo, chef du département production, prévention, gestion des crises alimentaires au commissariat à la sécurité alimentaire du Mali, et Hilaria Bianchi, spécialiste en nutrition et intérimaire chargé de nutrition à l'UNICEF.
Merci Famoussa et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.